stuk, een stuk. Ik de mesure piano. Van Echo. Encore une fois.
Music is about sculpting in time.
La musique, ce n'est rien d'autre que un exercice de sculpture dans le temps.
Yeah, well, 音楽の大陸, you know, a continent with music.
La musique, c'est de la sculpture dans le temps, continent musique. Bonsoir, vous entendiez ici le son pur de Ryuichi Sakamoto, le musicien japonais, de passage en France pour une série de concerts à Nantes et à la Maison de la Culture du Japon à Paris. Concert avec pour titre « Display » ou « Déjouer » avec des créations visuelles de Shiro Takatani. L'occasion de voir tous les instruments auxquels il a recours, du piano au synthétiseur analogique en passant par des sculptures de Bertoya ou de grandes plaques de verre. C'était aussi l'occasion de voir le film Coda consacré à Ryuichi Sakamoto, un film qui montre la genèse de son dernier album « Async », un disque singulier à tout point de vue puisqu'il a failli être le dernier. À ce moment-là, Ryuichi Sakamoto combattait un cancer. Le film mettait aussi en valeur les différents aspects de sa carrière, son engagement contre le nucléaire au Japon, le côté pop de sa musique avec le Yellow Magic Orchestra, ses musiques de films, je pense au Dernier Empereur, The Revenant, et puis bien sûr Furio, qu'il avait fait connaître dans le monde entier en 1983, où il jouait face à David Bowie. Ryuichi Sakamoto qui aura multiplié les collaborations à travers les continents et différentes musiques, y compris du côté du Brésil.
Maintenant je vais chanter une chanson que j'ai enregistrée avec Ryuichi Sakamoto et Cesario Evora. Le nom en français change aussi que Ryuichi Sakamoto va bien parce que en japonais mais Cesario Evora.
Précise au père de Har, il faut pardonner, c'était la chanson de João Gilberto que Caetano Veloso avait repris aux côtés de Ryuichi Sakamoto. Nos autres invités de ce soir partagent eux aussi ce goût des rencontres. Benoît de Villeneuve et Benjamin Morando qui invitent Vacarme, d'un côté un trio à cordes, violon et violoncelle, et puis de l'autre des synthétiseurs modulaires. Ils viennent de publier ensemble le beau et singulier Artificial Virgins et ils déjouent, ou ils jouent, dans les studios de France Culture une version inédite de leur pièce en deux parties, le désert rouge.
Thank you.
Carla Pallone, Christelle Lassor, Gaspard Claus, c'était le trio Vacarme, invité ici par Benoît de Villeneuve et Benjamin Morando dans les studios de France Culture. Vous entendiez donc de violon, un violoncelle, des machines. Ils vont nous dire dans un instant de quoi elles retournent en ce qui concerne les machines. Si vous voulez vous reporter au disque, je vous recommande le disque Artificial Virgins. En tout cas, le petit vinyle que j'ai ici est édité chez Sounds Like Yeah. Ces vierges artificielles, en tout cas sur le bel album, le bel objet que j'ai dans les mains, elles sont illustrées sur le disque par des figures géométriques. Il y a une photo de la brume au-dessus d'une canopée. Et puis au verso du disque, il y a des silhouettes adolescentes en blanc qui entrent dans une église. On se dit que c'est peut-être la Madeleine, hein, au vu des grandes...
C'est la Madeleine.
Bah, voilà. Alors Benoît Villeneuve, les photos, elles sont de vous. En quoi est-ce que ces photos de canopée, de communion, ça rejoint le projet musical que vous avez ici avec Benjamin Morando et puis le trio Vacarme?
Alors, les photos à proprement parler, c'était parce que je fais de la photo aussi par ailleurs. Et voilà. On a, en réfléchissant à ce qu'on pouvait faire comme pochette, on a essayé d'associer justement le côté, il y a le morceau qu'on vient de jouer qui s'appelle « Désert rouge ». Il y a un côté quand même qui peut être assez aride et en même temps assez contemplatif, donc de cette photo de face. Et le dos, par contre, ça pouvait donner une seconde lecture un petit peu plus christique à la musique. Ah, puis surtout que la première fois qu'on l'a joué, on l'a joué dans un temple, donc il y a un lien. Voilà. Après, les figures géométriques, c'était un petit clin d'œil aussi à toute la série du GRM. D'ailleurs, hier soir.
Se tient en ce moment, ce week-end, voilà. Le festival Présence électronique qui revient à Radio France, un festival initié par le GRM avec Lina. Je parlais des instruments avec lesquels vous êtes venu, parce qu'il y a une sorte de demi-valise dans lequel une valise dure, hein, comme une Samsonite de voyage.
C'est une DLC.
Voilà, bon, voilà, on aura donné plusieurs marques. Dans laquelle il y a un synthétiseur, mais alors, parce qu'on y met. Voilà, le synthétiseur modulaire, pour donner une explication, c'est pas ce qu'on imagine comme un clavier, c'est plutôt, il faut relier avec des patchs, énormément de fiches qu'il faut relier entre elles.
Oui. Il faut imaginer un synthétiseur dont on peut choisir les éléments soi-même et les assembler au gré des modules, justement, qu'on peut choisir à droite et à gauche par différents fabricants.
C'est ça qui faisait, par exemple, il y avait des sons de cordes tendues et détendues qu'on entendait sur la fin de la pièce. Ouais. Ça, c'est le boucla,
Non, c'est le modulaire. Le boucla, c'est aussi un modulaire, mais par contre, c'est un instrument à part entière, c'est-à-dire le boucla.
Et surtout, tu as un clavier sur le boucla, non?
Oui, il y a un clavier qui sert à soit donner des impulsions, soit des notes, des hauteurs.
C'est Carla Pallone qui posait la question. Je crois que les premières séances de travail ensemble, c'était il y a à peu près 2 ans, c'était en 2016, dans une crypte, la crypte du château à Lourmarin, donc ça résonnait autrement qu'ici.
Dans le temple protestant en face du château à Lourmarin.
C'est Benjamin et moi qui avons commencé dans la crypte. Au bout d'un moment, on a voulu en sortir. le festival hier nous a laissé sortir de la crypte.
Alors, comment se sont passés, du côté du trio, le travail avec des synthétiseurs? Je ne sais pas si vous aviez été amené à avoir... Déjà, vous êtes un trio avec une formation originale, parce que 2 violons et 1 violoncelle, c'est un peu inhabituel. Et en plus, travailler avec des synthétiseurs, vous avez au sol des partitions, mais il y a juste 3 portées, c'est très court.
Ouais. C'est Benjamin qui insiste pour nous faire une partition à chaque fois, avec 3 notes dessus. Et c'est très généreux de sa part.
Voilà. Et tu ne te souviens pas de ce que tu dois jouer. C'est un petit peu en se
mettre. Moi, j'ai une note qui serait
improvisée, on aurait des solos jazz rock partout, c'est pas possible.
C'est pour nous limiter.
D'accord, alors pour Gaspard Claus, il n'y a pas besoin de partition, mais vous avez besoin de vous organiser en revanche, parce qu'on ne sait pas qui mène la danse en fait, entre les cordes, les synthétiseurs, et tout le monde prend le pouvoir à un moment ou l'autre, enfin prendre le pouvoir, on s'entend, mais voilà, comment fonctionne le tuilage entre vos parties respectives?
Bah, je trouve que c'est vrai, il y a cet échange, et puis cette richesse que Benoît et Benjamin ont vraiment réussi, je trouve, à imiter presque les cordes. Il y a des moments où, dans le temple, par exemple, moi, je ne savais plus qui jouait quoi. J'étais là. Mais qui fait ce son? Du coup, je pense qu'il y a vraiment cette volonté d'être...
Confus, qu'on ne sache plus qui est synthétique. Et en plus, dans le temple, ça résonnait. Il y avait beaucoup d'écho, beaucoup de réverb. Et donc, les sons se mélangeaient vraiment énormément dans l'espace. Et effectivement, à la fin, on ne savait plus qu'est-ce qui...
Puis il y a l'idée de prendre les instruments comme aussi de la matière et pas de les restreindre juste à
une partition.
Au rôle auquel, une partition auquel ils sont d'habitude associés.
Ouais,
donc, que les synthétiseurs puissent sonner de manière très organique comme des instruments et que parfois justement on confonde dans la manière de jouer du trio. Parfois ils sont vraiment dans de la texture, de la matière. Et justement, on ne sait plus, tiens, peut-être que c'est des impulsions électroniques. Nous, avec Benjamin, on trouve ça intéressant, en fait.
Mais surtout qu'il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas s'écrire sur une partition. Tout ce qui est texture, tous les modes de jeu qu'invente Vacarme, on ne peut pas les fixer sur une portée. Donc, il y a des petites notes. Et après, c'est ça qui est très vivant et que les concerts sont toujours un peu différents.
Alors, Benjamin Morando, puisqu'on vous entendait à l'instant, on s'est croisé il n'y a pas longtemps au concert de Ryuichi Sakamoto. On écoute un extrait d'une de ses pièces passées et on va voir peut-être les liens qui peuvent vous unir à sa musique. Riot in Lagos, c'était l'album B2 Unit de Ryuichi Sakamoto en 1980. À quelle période de la carrière de Ryuichi Sakamoto vous êtes particulièrement attachés les uns les autres? On va commencer par vous, Benjamin Morando. Parce que ça fait débat, hein, Gaspard Claus, il n'aime pas tout de l'œuvre de Ryuichi Sakamoto.
Oui, je comprends qu'on n'aime pas tout parce que c'est très très éclectique, très différent. Il a fait un disque de bossa, il a fait son album qui s'appelle 1996, ça ressemble plus à la musique française, l'impressionniste, du Debussy, etc. Ce qui fait qu'Alvan Otto, c'est encore très différent. Même toutes ses BO sont différentes entre elles. Avec Benoît, on est vraiment très très attaché à son dernier disque.
Kissing.
Oui, qui est peut-être, probablement, personnellement, ce qu'il a fait de plus beau, puisque ça rassemble un peu toutes ses influences, et en même temps c'est très personnel, et on sent que c'est un disque qui est important dans sa vie. Enfin, il s'est peut-être dit que c'était son dernier disque, et du coup ça se sent vraiment... Enfin, moi je le savais pas quand j'avais entendu ce disque, je dis tiens, c'est bien, il est très très habité.
Hein, un peu comme le David Bowie.
Oui, exactement, c'est ce qu'on s'est dit.
Il y a toute une phase comme ça, dernier disque avant... Oui, où les musiciens savaient que c'était leur dernier disque, ouais. Qu'ils avaient à cœur de
partir en beauté. Quoi.
Voilà. Et ça passe.
Il n'est pas encore parti.
Non,
heureusement. Mais vous avez, on a assisté au même concert qui a été donné. Il a donné deux concerts à Paris à la Maison du Japon. Vous étiez quasiment au premier rang.
Oui. Merci Cyril Jollard.
Benjamin Morando, je crois que c'est la première fois que vous voyez en concert. Qu'est-ce qui vous a frappé dans ce que vous avez vu sur scène? Parce que c'était Ryuichi Sakamoto dans une maîtrise total de sa musique, il est tout seul avec énormément d'instruments différents.
J'ai trouvé ça très généreux, c'est-à-dire qu'il aurait pu se contenter de jouer au piano et y avoir des choses dans l'ordinateur, des traitements, et en fait il voulait essayer plein de choses, s'amuser. Il y avait quelque chose d'assez ludique, presque enfantin, de passer du violoncelle à la guitare, à jouer avec des pièces et des éléments métalliques dans les cordes du piano. Enfin, il s'est réapproprié son album, il n'a pas reproduit son disque, il s'est dit tiens, je vais faire quelque chose de nouveau et de très vivant. Et je trouvais ça assez généreux. Et puis, le rapport avec les images était assez émouvant, oui, très contemplatif.
Beaucoup de projections derrière. Et c'était...
Les images étaient très belles. Ouais.
C'était effectivement...
Moi, j'étais un peu plus mitigé sur le concert. J'y étais la veille. Et je trouvais qu'il y a des très beaux moments, mais comme son dernier disque, et des moments un peu où il... Bon. Dans l'expérimentation, j'ai tendance à penser qu'il est un peu moins à l'aise. Et que c'est un très bon mélodiste.
Un musicien de maîtrise, vous voulez dire.
Et donc, quand il était au violoncelle, justement, parfois c'était un peu long, mais Benjamin est d'accord en plus.
Ça valait pas du Gaspard.
Voilà. Il essaye de faire du
il
Gaspard.
Il a failli prendre mon violoncelle d'ailleurs. Il y a des questions qu'il me prête, que je lui prête pour.
Oui, puisque Jean-Michel Jarre lui a prêté un synthétiseur.
Oui, voilà, on a tous été contactés pour faire le background.
Un synthé aussi. Ouais.
Et vous, vous avez été lié avec Ryuichi Sakamoto indirectement.
Il est dans le casting d'un disque que j'ai fait en 2012 au Japon, Joe Haiku, où il y a 11 musiciens et moi, dont Ryuichi Sakamoto, Tomoyoshi Hide, Keiji Anno. Et c'est le seul qui n'est pas venu en studio.
Ah.
Et on a fait des échanges de fichiers. Avec Ryuichi Sakamoto, extrêmement émouvant. Mais il est dans ce disque, oui.
Et ben on retrouve Ryuichi Sakamoto et la musique de Async. On va écouter la première pièce, c'est Andata. Sakamoto, vous avez dit à propos de ce disque Async comme asynchrone, qui ne se déroule pas à la même vitesse. Vous aviez dit à propos de ce disque que vous étiez décidé à composer la musique que vous aviez envie d'entendre. Mais ça n'a pas toujours été le cas ?
Non. Apparently, no.
Non, apparemment, non.
You know, for many years, like I've been doing music for 4 decades. And,
this ça fait 40 ans que je fais de la musique.
Async is the only album, you know,
et Async, c'est le seul album
and purely où
j'ai pu
intimate.
Vraiment me livrer à une expression artistique
not thinking
très
about
intime, sans
marketing or
réfléchir
sales or,
à la commercialisation,
you know,
est-ce que ça plairait, sans imaginer les réactions des auditeurs, non.
So
j'ai pu faire cette de façon totalement égocentrée, totalement égoïste.
And that was a great feeling.
Et je veux dire que c'est un chouette sentiment.
Sakamoto, vous jouez sur un piano qui a survécu au tsunami. Qu'est-ce que vous avez trouvé avec ce piano noyé?
Well, it was 10 months
C'était 10 mois après le séisme et le tsunami. Je me suis rendu dans une école. Et là, j'ai rencontré ce fameux piano du tsunami. Appelons-le comme ça, si vous voulez bien.
My first impression was, this is the dead instrument.
Je me suis dit, voilà un instrument mort.
And I felt almost like a physical pain.
Et physiquement, j'ai senti une certaine douleur en moi.
Yeah, because maybe because I'm a musician, so musical instruments.
En tant que musicien,
very close
évidemment, je me sens très proche des instruments.
So I felt really almost like it's like losing my closest friend.
C'est comme si j'étais endeuillé à la suite de la perte de mon plus proche ami.
But so that was a big impact for me to think about what nature is.
Cela a eu un fort retentissement sur moi. J'ai réfléchi à la nature, à notre civilisation.
The humans are.
Et j'ai réfléchi à la nature humaine.
Quelle sonorité est-ce qu'il a pour vous, ce piano?
It sounded like crying, lamenting.
Sa sonorité était proche d'un pleur, d'une lamentation.
France Culture.
You know, a continent with music.
Mathieu Conquet.
Because we don't know when we will die, we get to think of life as an inexhaustible well. Yet everything happens only a certain number of times. And a very small number, really. How many more times will you remember a certain afternoon of your childhood? Some afternoon that's so deeply a part of your being that you can't even conceive of your life without it. Perhaps 4 or 5 times more. Perhaps not even that. How many more times will you watch the full moon rise? Perhaps 20. And yet it all seems limitless.
Il y a cette musique, Ryuichi Sakamoto, Full Moon, où l'on entend la voix de Paul Bowles, l'écrivain, qui lit un extrait de son roman Un thé au Sahara. Alors je dis cet extrait pour la version française, parce que nous ne savons pas quand nous allons mourir. On considère parfois la vie comme un bien inépuisable. Et pourtant, tout arrive seulement un certain nombre de fois, un tout petit nombre vraiment. Combien de fois vous souviendrez-vous d'un certain après-midi d'enfance? Et combien de fois encore verrez-vous la pleine lune se lever, peut-être 20, et pourtant on pense la revoir indéfiniment.
Well, that moment, the Paul Bowles appeared.
Mais
over his own narration,
au moment où on voit
excerpts from
Paul Bowles
his novel,
et cet extrait
that was the first time
qui
I
est
saw
lu, c'est la première fois que j'ai vu cela lors de cette projection à New York.
Me,
et là, j'ai été
hugely.
Et immensément frappé.
Well, still, it's hard for me to describe.
C'est difficile à décrire l'impression, l'impact que j'ai vécu.
Sad.
J'ai ressenti de la tristesse.
But death happens to everybody, so it's
la mort
natural.
Nous frappe tous, donc en même temps,
and
c'est un phénomène
not
naturel.
His tone, not very sad.
Son ton. La tonalité de sa voix lorsqu'il lit cet extrait n'est pas particulièrement triste. Ça ressemble un petit peu à un texte bouddhiste, vous voyez, avec des intonations très neutres. Mais à l'évidence, le contenu du texte porte sur la mortalité. Et d'ailleurs, c'est vraisemblablement dans le roman le moment le plus chargé d'émotions. Donc, ce passage et ce texte a eu un impact très fort sur moi. Et c'est là que je me suis dit qu'il fallait que j'utilise cet extrait. Que je l'intègre d'une façon ou d'une autre avec de la musique que je composerai.
Hversu oft myndu rifið upp sérstætt síðdegi bernskuðar? Síðdegi sem svo samúðið verið þinni. Þú getur vart hugsaði lífið eins og þess.
Ryuichi Sakamoto, vous faites de la voix de l'écrivain Paul Bowles une musique, un instrument parmi les autres. Il se trouve que le hasard fait que Paul Bowles est aussi un compositeur. Mais ce texte, dans votre musique, vous le faites dire en anglais, on l'entend dire en iranien, en russe, en français, en italien, mais pas en japonais. Est-ce qu'il y a une forme d'adieu au Japon dans ce disque Ryuichi Sakamoto, le Japon, où vous retournez mais où vous ne vivez plus?
I know I should have contained the Japanese translation next to Chinese.
J'aurais dû faire une version japonaise à côté de la version chinoise, française ou autre.
I used Icelandic.
J'ai même été jusqu'à faire une version en islandais.
Farsi.
Vous voyez, vous l'avez dit en iranien, en farsi, en perse.
But no Japanese.
Mais évidemment, vous l'avez dit aussi, pas de version japonaise.
I don't know why. I don't know the reason,
donc, la raison m'échappe un petit peu, pour ne rien vous cacher.
I use the Japanese translation.
Si j'avais utilisé la version japonaise, c'est moi qui aurais dû être le narrateur de ce texte. Mais personnellement, j'ai une voix très douce, vous l'entendez peut-être d'ailleurs, donc je n'aurais pas été un bon narrateur.
Ryuichi Sakamoto, votre musique est aussi marquée par les sons de la nature que vous avez enregistrés et incorporés à votre musique. Quels sont les sons qui vous ont le plus marqué?
Well, of course, the boom keeps changing, like a boom of my favorite sound.
Alors évidemment,
keeps changing the boom trend, my own trend of which one I like most.
Ah, mon goût personnel change évidemment, il évolue en permanence.
But for long time, probably the sounds of rain.
Pendant longtemps, je dois dire que j'ai eu une affection particulière pour le son de la pluie.
Comme Tarkovsky.
Comme pour Tarkovsky.
Je voudrais parler de votre rapport à la technologie, Ryuichi Sakamoto. Est-ce que pour vous, il y a une ambiguïté à avoir recours à celle-ci, par exemple pour faire de la musique et faire des choses merveilleuses comme la musique, mais aussi à s'opposer à elle, comme vous avez pu le faire quand vous vous opposez de façon très farouche au nucléaire?
Yes or no, maybe in between.
Comment dire, réponse de Normand, en quelque sorte.
Yes,
récemment, je me pose beaucoup de questions sur notre civilisation. Elle détruit la nature. Nous pillons la nature. Nous consommons ce que la nature nous offre.
I'm thinking somehow we could.
Et je me dis que l'on pourrait envisager de coexister avec la nature à côté des autres espèces. Mais depuis un certain temps, notamment depuis Fukushima, j'essaye de m'éloigner de la technologie dans la création musicale.
Ryuichi Sakamoto, vous l'avez souvent dit, un réalisateur qui a beaucoup compté pour vous, c'est Andrei Tarkovsky, le réalisateur russe d'Andrei Rublev, de Stalker. On entend même dans le disque une poésie d'Arseni Tarkovski, le père du cinéaste. Je voudrais vous faire entendre la voix d'André Tarkovski. C'était en janvier 86 sur France Culture.
Pourquoi créer de la beauté alors que le mal est à l'œuvre sans cesse?
Ну, чем больше торжествует зло, тем больше оснований создавать, так сказать, произведения искусства.
Plus il y a de mal dans le monde, plus de raisons il y a à créer des œuvres d'art.
Как раз причин гораздо больше для этого.
Il y a d'autant plus de raisons de
труднее,
créer des œuvres d'art. C'est plus difficile.
Но более необходимо.
Mais c'est plus nécessaire aussi.
Искусство – это, как вам сказать?
L'art, c'est, comment vous dire?
То есть до тех пор, пока будет существовать человек,
aussi longtemps que l'homme existera,
человек будет стараться, не будет стараться, будет инстинктивно стремиться к творчеству.
Il aura une tendance tout à fait instinctive vers la création.
До тех пор, пока он будет ощущать, человек будет ощущать себя человеком, он будет
aussi longtemps que l'homme se sentira
создать
homme,
что-то.
Il essaiera de créer quelque chose.
Этим самым он просто связан каким-то образом со своим создателем.
C'est en cela qu'il a un lien avec son créateur, en quelque sorte.
Потому что творчество, что такое творчество по существу?
La création, qu'est-ce que ça veut dire en fait la création?
Для чего существует искусство?
À quoi sert l'art?
Почему?
Pourquoi?
Хорошо это или плохо?
Est-ce bien, est-ce mal?
Конструктивно ли это? Или это абсолютно чистое искусство?
Est-ce constructif ou est-ce simplement de l'art?
Но ясно одно, что искусство это молитва.
Mais il est clair que l'art, c'est une prière.
Это, этим все сказано.
Et cela veut tout dire.
При помощи искусства человек выражает свою надежду.
À travers l'art, l'homme exprime son espoir.
И все остальное не имеет никакого значения.
Et le reste n'a aucune importance.
И все, что не выражает надежды.
Et tout ce qui n'exprime pas l'espoir.
И то, что не выражает, не строится на каком-то духовном уровне.
Ce qui n'a pas de fondement spirituel.
Не имеет никакого отношения к искусству.
N'a aucun rapport à l'art.
I like the way he used music and sounds.
J'aime la façon dont Tarkovski utilise à égalité la musique et le son.
Some series of sounds. Could be very musical.
Tarkovski a compris que certains sons peuvent être très musicaux.
I love the title of his book, Sculpting in Time. His book.
Il a écrit un livre, La sculpture dans le temps, dont le titre français est Le temps scellé.
Because sculpting in time is literally about
music. Il s'agit là de musique.
Music is about sculpting in time.
La musique, ce n'est rien d'autre que un exercice de sculpture dans le temps.
And I think he meant that.
Et c'est cela qu'entend Tarkovski dans son emploi de la musique et des sons.
There's so much music in his films, not only
il y a
the real music,
tant de musique
sounds,
dans ses films. Il y a d'une part la vraie musique, mais il y a aussi des sonorités. Et tout cela s'accompagne de mouvements. Donc les mouvements, les images, tout cela fusionne.
Like, for example, so many different kinds of recordings of rain.
Par exemple,
sounds,
il y a différents types d'enregistrements de pluie, de sons de
sound
pluie,
design
nostalgie.
Is definitely pure musical.
Et ça, c'est de la pure musique à mes oreilles.
So, I don't need to hear the real music.
C'est pas la peine d'entendre du Beethoven ou du Bach. Il suffit d'écouter. Cela, ça dure une minute, pas plus, mais c'est magnifique. Quelle musicalité alors qu'il n'y a pas de musique.
Ryuichi Sakamoto, vous avez participé à beaucoup de musiques de films. La plus connue, c'est Furio, Merry Christmas, Mr. Lawrence, où en plus vous teniez un des premiers rôles et en plus vous aviez composé la musique et vous jouiez à l'écran face à David Bowie. Mais vous avez travaillé ensuite avec des réalisateurs très différents comme Pedro Almodovar, Bertolucci, Brian De Palma, Alejandro Iñárritu. La musique de film a parfois tendance à indiquer le sentiment voulu par le réalisateur. Et on a l'impression que ce n'est pas vraiment le cas avec votre musique. Quelle est la fonction de la musique au cinéma, selon vous ?
In the beginning, when I was young, I wanted to my music
Au début, lorsque j'étais jeune,
just stand out,
je voulais que ma musique ressorte.
Even without the context of films.
Même en dehors du contexte des films.
I was very egocentric.
Encore une fois, c'est une histoire d'égoïsme. J'étais très égocentrique.
But now I'm completely changed.
Aujourd'hui,
different.
J'ai beaucoup évolué. C'est complètement différent.
I want my music to
je veux
be, underneath
que ma musique
of the film,
soit
get along
en retrait du film, accompagne le contexte.
Just, supporting
je veux que ma musique soutienne
the meaning of the film.
La signification du film. Moi, je pense qu'un film ne doit pas nécessairement avoir une bande originale de musique. Bon, peut-être qu'il faudrait que je change de travail.
J'aimerais parler de littérature avec vous, Ryuichi Sakamoto. Votre père, Sakamoto Kazuki, était un éditeur. Il a édité Yukio Mishima, Kenzaburo Oe, Hiroshi Noma aussi. Quels sont les écrivains qui ont marqué votre réflexion de lecteur et peut-être de citoyen? Parce que Hiroshi Noma, par exemple, est connu pour un roman anti-militariste, Shinku Shitai.
Well, first of all, he was a fascistic boy when he was a, when my father was a fascistic, well, he was a fascist.
Fascist.
Yes.
Okay.
You know, during the war, before the war.
Avant la guerre. Mon père était fasciste.
Well,
no
exception, all the Japanese people were fascists.
Tout le monde était fasciste au Japon à cette époque-là, avant la guerre.
Before the war, he was a boy.
Donc là, il était un jeune garçon. Hein.
Then he was deployed as a soldier.
Il so
he went to Manchuria.
Soldat en Mandchourie.
Luckily, he didn't kill anybody.
Par chance, il n'a tué personne.
And he came back. Then, you know, he changed
his mind completely. Au Japon.
He became very liberal.
Et là, il a complètement changé d'état d'esprit.
And told me a lot of histories while he was in China.
Expliqué ce qu'il a fait en Chine en tant que soldat.
Anyway, so it was his very harsh experience as a soldier.
Donc, je suis en train de vous relater donc cette expérience très dure qu'a connue mon père, parce que cela
very passionately
a fait de lui
novels
passionné
after the war.
Par la littérature. C'est ça qui a nourri sa passion pour la littérature après la guerre.
Like Shinku Chitai by Hiroshi Noma.
Well, Hiroshi Noma, par exemple,
c'est
un très bon exemple.
About war. Yeah.
Et ce sont des récits de guerre.
C'est
roman qui explique
la
cruauté et la laideur psychologique et morale des êtres humains parfois.
This is universal subject.
Évidemment, c'est un sujet universel.
Unfortunately, it's happening right now.
Et malheureusement,
many places on this planet.
Cette expérience-là, il y a des gens qui la vivent alors même où nous parlons.
My father,
donc, mon père a eu une forte influence sur moi. Moi, j'ai grandi avec une bibliothèque sous les yeux et je regardais les noms des auteurs sur la
our tiny house was literally occupied.
Nous vivions dans une petite maison occupée par les livres.
Ce n'est peut-être pas un hasard si votre premier album faisait référence à un livre, celui d'Henri Michaud, puisque votre premier album s'appelait Thousand Knives et ça faisait référence à cette phrase de Misérable Miracle où Henri Michaud parle de mescaline. Tout à coup un couteau, tout à coup mille couteaux, tout à coup mille faux éclatantes de lumière. C'est à ça que votre premier album faisait indirectement référence. Vous avez mené vous-même, Ryuichi Sakamoto, ce genre d'expérience comme celle d'Henri Michaud avec la mescaline, ou est-ce que ce sont les œuvres d'art qui vous ont offert ces transports?
Unfortunately, I have never experienced mescaline.
Ah, malheureusement, je ne connais pas la mescaline.
No, too bad.
Dommage.
But alors, now I'm too old.
Mais maintenant, je suis trop vieux.
I don't know, but maybe similar to the.
Je ne saurais pas dire. Mais en tout état de cause,
great authors like Baudelaire, Rimbaud,
chez Baudelaire, Rimbaud,
great writers,
Baudou, chez d'autres grands écrivains, l'influence de la drogue n'est pas absente. Je ne sais pas si l'efficacité de la drogue est positive ou négative.
J'aimerais pour terminer parler bien sûr de Yellow Magic Orchestra, le groupe auquel vous avez participé, Ryuichi Sakamoto, aux côtés de Harumi Osono. Je pense à ce titre par exemple, Behind the Mask. Je me demandais déjà ce que voulait dire pour vous cette expression de derrière les masques. Et puis, ce qui est assez étonnant, c'est de voir l'évolution de votre musique. Vous êtes passé de quelque chose de très pop à des musiques qui étaient faites pour être dansées, très populaires, à quelque chose de beaucoup plus intérieur, de beaucoup plus solitaire. Est-ce que la danse ou la musique sur laquelle on danse, ça a une valeur particulière pour vous? Je crois même que vous aviez dansé avec Kraftwerk une fois.
In 1980.
Oui, c'était en 1980, j'ai dansé avec Kraftwerk.
In a discothèque in Tokyo.
C'était dans une boîte de nuit à Tokyo.
Three members of YMO encountered four members of Kraftwerk.
Oui, les trois membres de mon groupe ont rencontré les quatre musiciens de Kraftwerk et tous ensemble nous sommes allés en boîte et on a dansé. Bref.
My father, as an editor, worked on Yukio Mishima's The Confession of Mask.
Pour revenir à mon père, qui était éditeur, il a travaillé sur la notion, les livres de Mishima qui portent sur les masques. Donc il y a une réflexion sur Behind the Mask, derrière le masque.
Behind the Mask is maybe a perfect title for.
Derrière le masque. C'est peut-être
Michael Jackson.
Le titre parfait pour Michael Jackson, justement. Je ne l'ai jamais rencontré, donc je ne saurais pas trop dire, mais
naturally, he must have had, many masks.
Michael Jackson devait, à mon avis, porter de nombreux masques pour se cacher.
I felt kind of similar feeling about David Bowie.
Et je ressens la même chose vis-à-vis de David
Bowie.
Bowie qui était quelqu'un de très sympa, terre à terre, naturel, mais il pouvait également être très refermé, professionnel, très superstar. Je ne juge pas, hein, je ne porte pas de jugement de valeur, mais je comprends que David Bowie avait besoin de porter des masques de temps à autre pour se protéger.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Ryuichi Sakamoto. Merci à lui de nous avoir reçus lors de son passage à Paris. L'album de Ryuichi Sakamoto, Async, ainsi que les remixes ou les remodels sont disponibles sous le label Milan Music. Merci à Xavier Combe d'avoir assuré la traduction de ses propos. Merci à tous, Villeneuve et Morando, et le trio Vacarme, d'être venus jouer ici dans nos studios et puis d'avoir écouté Ryuichi Sakamoto. Le disque, votre disque Artificial Virgins, est édité chez Sounds Like Yeah. Continent Musique touche à sa fin. On se quitte avec Park Jia, une musicienne coréenne dont le premier album solo vient de paraître chez Glitterbeat. Park Jia, elle joue du piri, c'est une sorte de hautbois traditionnel, du shengwang, c'est un autre instrument à vent, et c'est magnifique. Extrait de Communion, l'album de Park Jia qui vient de paraître sous le label Glitterbeat. J'annonce, on en a parlé tout à l'heure, le festival qui se tient en ce moment dans la maison de la radio avec l'INA GRM, le festival Présence électronique. Vous entendrez ce soir la musique de Else Marie Padeux, ce sera à 20h30, ou encore Phonophanie. Demain, Jacques Lejeune ou encore Grave Temple. Présence électronique revient dans Radio France au studio 104. Toutes les informations et la programmation musicale sont à retrouver sur la page internet de l'émission Continent Musique sur franceculture.fr, ainsi que la réécoute, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner, vous pourrez tout réentendre et c'est gratuit.
C'est bon ? Ah, génial !
Continent Musique vous est proposé par Mathieu Conquet avec la collaboration de Pascaline Bonnet, à la réalisation Olivier Guérin. À la prise de son ce soir, Emmanuel Morse-Duncamp, Pierrick Monsigny et Yann Fressy. Merci à Annie Lozana de l'INA et Antoine Villose de la discothèque de Radio France. Les programmes continuent. Restez en bonne compagnie sur France Culture. Bonsoir.